Un soir de septembre, la télévision tourne à vide, la vaisselle sèche sur l'égouttoir et le silence entre vous deux ne ressemble plus qu'à une paix partagée, mais à une anesthésie progressive. Vous regardez sans vous voir, vous vous touchez par habitude, vous faites l'amour avec la régularité mécanique d'un calendrier bien tenu. C'est l'asphyxie douce des amours tranquilles. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Dans mon cabinet, je vois chaque semaine des hommes et des femmes s'aimer profondément mais s'éteindre à petit feu sous le poids d'une certitude mortelle. Croire qu'ils connaissent l'autre par cœur. Prenez l'histoire de Sophie et Marc, ensemble depuis 7 ans. Quand ils passent la porte de mon cabinet, ils ne se disputent pas, ils s'ennuient. Marc soupire en disant que Sophie n'a plus de désir. Sophie affirme que Marc ne fait plus aucun effort de séduction. En tirant sur la pelote de leur histoire, un schéma classique apparaît. Marc a grandi dans une famille où l'affection était conditionnée par la prévisibilité. Pour être aimé, il fallait être sage, sans vagues. Sophie, elle, porte la blessure d'un père imprévisible et a développé un besoin viscéral de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Au début de leur relation, la passion compensait tout, puis l'inconscient a repris les commandes. Pour se rassurer, Sophie a façonné une image figée de Marc, un homme rangé, prévisible et rassurant. Marc, par loyauté invisible envers son passé, et pour ne pas effrayer Sophie, s'est glissé scrupuleusement dans ce costume étriqué. Ils ont construit une illusion de sécurité absolue au prix fort. L'extinction totale de l'érotisme. Car le désir ne naît pas de la certitude, le désir a besoin d'espace, d'inconnu, d'un écart entre soi et l'autre. En cherchant à éradiquer tout risque, ils ont banni le mystère. Et vous, dites-moi, quelle étiquette rassurante mais étouffante avez-vous collée sur le front de votre partenaire pour éviter d'avoir à affronter ce qui vous échappe chez lui ou chez elle? Face à cette érosion du désir, Marc et Sophie ont tenté ce que presque tous les couples font, toujours plus de la même chose. Marc a redoublé d'attention classique avec des bouquets de fleurs le vendredi et des restaurants le samedi, tandis que Sophie s'imposait des moments d'intimité par devoir moral, espérant que l'envie viendrait en mangeant. Ces tentatives de solution ne font qu'entretenir le problème. Plus Marc organise des rendez-vous prévisibles, plus Sophie se sent étouffée et plus Sophie se force, plus son corps associe le lit conjugal à une contrainte bloquant l'excitation. Il faut briser ce cercle vicieux. Lors de nos séances, j'ai d'abord prescrit à Marc et Sophie l'interdiction stricte de faire l'amour pendant 3 semaines, combinée à des exercices de reconnexion sensorielle non axés sur la performance. Libérés de l'obligation du résultat, leur stress a chuté. Je leur ai ensuite proposé de changer la carte de leur représentation. Quand vous dites « mon conjoint n'est pas joueur » ou encore « ce genre de fantaisie n'est pas pour moi », vous ne décrivez pas la réalité, vous décrivez votre grille de lecture étriquée. C'est précisément là que réside le pont entre le travail que nous faisons en cabinet et les démarches très concrètes du quotidien. Il y a quelque temps, j'ai échangé avec mon ami Christophe, qui dirige la boutique érotique Au Caprice des Anges à Porte-les-Valence. Dans son espace, loin des clichés vulgaires, Christophe fait un travail remarquable qui rejoint le mien. Il offre un lieu de médiation. Pousser la porte d'un lieu dédié à l'érotisme ou intégré, un objet inédit dans sa chambre n'est pas un acte magique qui guérit un couple par enchantement. C'est un prétexte puissant pour introduire du jeu, casser la prévisibilité et renouveler les scripts sexuels dans lesquels vous êtes englués. J'ai demandé à Marc et Sophie d'aller ensemble à la boutique érotique de Christophe. Non pas pour acheter le gadget le plus extravagant, mais pour accepter d'être vu par l'autre dans un contexte inhabituel. Choisir une huile de massage parfumée ou simplement rire de leur propre pudeur au milieu d'accessoires coquins constitue un exercice de restructuration comportementale. Cela déplace l'attention. Le corps n'est plus un outil de performance, il redevient un territoire et un terrain d'exploration ludique. Pour sortir du marasme, il faut réapprendre à regarder son partenaire comme une terre inconnue. Le changement ne demande pas une révolution d'une violence inouïe, mais une bascule d'attitude fondamentale. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Alors dès ce soir, vous pouvez poser à votre conjoint une question dont vous pensez connaître la réponse. Mais écoutez-le, comme si vous ne le connaissiez pas. Demandez-lui par exemple, « Qu'est-ce qui t'a fait vibrer cette semaine ?» Ou encore, « Quel est le projet qui te fait le plus peur en ce moment ?» Et interdisez-vous de finir ces phrases. Projetez-vous dans 3 mois. Imaginez votre couple non plus comme 2 personnes qui se subissent sous le même toit, mais comme 2 individus autonomes qui choisissent chaque jour de se séduire. La nouveauté ne demande pas de changer de partenaire, elle exige de changer de regard que vous portez sur lui ou sur elle. L'amour durable n'est pas une longue promenade tranquille sur un chemin balisé. C'est une prise de risque permanente, une décision consciente de laisser à l'autre le droit de vous surprendre, de vous déranger et de vous exciter encore. Vous n'avez pas épuisé le potentiel de votre histoire, vous avez simplement épuisé vos vieilles habitudes. Il est temps de rouvrir la porte du mystère. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Sophie et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Mais est-ce que les silences s'allongent entre vous? Est-ce que chaque tentative de discussion se transforme en tribunal ou en évitement systématique? Lorsque le couple devient une zone d'épuisement, la bonne volonté ne suffit plus. Quand un couple traverse une zone de turbulence, l'erreur la plus fréquente est d'attendre que l'orage passe. L'inaction ne stabilise pas le système, au contraire, elle fige les rancœurs. C'est pourquoi je vous offre mon livre, Le couple, de l'épreuve à l'épanouissement. Découvrez pourquoi vos désaccords se répètent invariablement sous la même forme. Vous apprendrez à identifier vos mécanismes de défense automatique pour stopper immédiatement l'escalade des tensions. Mais également, analysez les variables invisibles qui usent la connexion et gèlent le désir. Mon livre vous donne des outils pour réamorcer la présence corporelle à l'autre au-delà de la routine logistique et des charges du quotidien. Et ensuite, apprenez à formuler un besoin fondamental ou à fixer une limite indispensable sans déclencher la défensive, la colère ou encore le repli de votre partenaire. Il est temps de rétablir une intelligence émotionnelle et relationnelle. Mon livre a été écrit spécifiquement pour les couples qui font face à une baisse de vitalité relationnelle, à des conflits ou encore à une sensation de solitude à deux. Si vous refusez de laisser la situation se dégrader, alors cet ouvrage est votre premier point d'appui. Pour le télécharger, cliquez sur le lien juste en dessous.